Bretagne 5, écoutez la Bretagne.
Lectures en liberté, Denis Flageol.
Bonsoir. Nous nous retrouvons donc pour la suite du roman de Conan Doyle, Le chien des Baskerville. « Venez, monsieur !» cria Frankland en se précipitant dans l'escalier. « Vous verrez de vos propres yeux et vous jugerez par vous-même. » Le télescope, formidable instrument monté sur un trépied, dressait sa lunette sur le toit plat de la maison. Frankland colla son œil contre le viseur et poussa un petit cri de plaisir. « Vite, docteur Watson, vite ! Avant qu'il soit de l'autre côté de la colline !» C'était lui, sans aucun doute. Un jeune garçon avec un petit ballot sur l'épaule gravissait lentement la colline. Quand il eut atteint la crête, sa silhouette se détacha sur le froid ciel bleu. Il regarda autour de lui comme quelqu'un qui aurait eu peur d'être suivi, puis il disparut de l'autre côté de la colline. Alors, ai-je raison ? Bon, il est certain que voilà un jeune garçon qui paraît effectuer une mission secrète. Et la nature de cette mission, même un policier du comté pourrait la deviner. Mais la police ne sera rien par moi, et je vous commande le secret à vous aussi, docteur Watson. Pas un mot à quiconque, me comprenez-vous ? Bah, comme vous voudrez. La police m'a traité d'une façon honteuse, et quand les faits sortiront dans l'affaire Frankland contre la reine, je vous prie de croire que le pays sera secoué par une violente indignation. Pour rien au monde, je n'aiderai la police. Car elle ne souhaiterait qu'une chose, c'est que ce soit moi, et non mon effigie, qui soit brûlée en place publique par ces voyous. Comment vous partez ? Allons, allons, vous allez m'aider à vider la bouteille pour fêter ce grand événement. Mais je résistai à son invitation et je le dissuadai de me raccompagner. Je pris la route et m'y maintins tant qu'il pouvait me suivre du regard. Puis je coupai par la lande et me hâtai vers la colline pierreuse où l'enfant avait disparu. Tout m'était à présent favorable. Je me sentais le vent en poupe et je jurai que ce ne serait ni par manque de persévérance ni d'énergie que je gâcherais la chance que m'offrait la fortune. Quand j'atteignis le sommet de la colline, le soleil était déjà bas. La longue pente au-dessous de moi se montrait d'un côté d'un vert doré et toute grise de l'autre. Une brume longeait l'horizon d'où surgissaient les contours fantastiques de Belliver et de Vixentor. Toute la vaste étendue était muette et immobile. Un grand oiseau, une mouette ou un courlis, planait très haut dans le ciel bleu. Lui et moi semblions être les deux uniques êtres vivants entre la voûte céleste et le désert de la terre. Le décor dénudé, le sentiment de solitude, le mystère et l'urgence de ma mission, tout cela se conjugua pour me faire frissonner. Le jeune garçon était invisible. Mais au-dessous de moi, dans un creux entre les collines, se dessinait un cercle de vieilles cabanes. Au centre, j'en vis une qui était pourvue d'une sorte de toit qui pouvait protéger quelqu'un contre les intempéries. Mon cœur battit plus fort. Là devait s'abriter l'inconnu. Enfin, son secret était à portée de ma main. Quand j'approchai de la cabane d'un pas aussi circonspect que celui de Stapleton quand il s'apprêtait à abattre son filet sur un papillon, je me rendis compte que l'endroit avait été incontestablement habité. Un vague chemin parmi les rocs conduisait à une ouverture surbaissée qui servait de porte. tout à l'intérieur était silencieux. Peut-être l'inconnu dormait-il ? Peut-être faisait-il une ronde sur la lande ? Mes nerfs se tendirent sous l'excitation de l'aventure. Je jetai ma cigarette, je refermai une main sur la crosse de mon revolver, je marchai doucement jusqu'à la porte. Je jetai un coup d'œil. Personne. Mais j'étais sur la bonne piste. L'inconnu vivait assurément ici. Quelques couvertures roulées dans un imperméable étaient posées sur la même dalle de pierre où avait jadis sommeillé l'homme néolithique. Dans une grille grossière, des cendres étaient entassées. À côté du foyer, il y avait quelques ustensiles de cuisine et un tonnelet à demi plein d'eau. Des boîtes de conserve, vides, révélaient que l'endroit était habité depuis quelque temps. D'ailleurs, lorsque mes yeux se furent accoutumés à la pénombre, je vis un gobelet et une bouteille d'alcool à demi vidée qui étaient rangées dans un coin. Au milieu de la cabane, une pierre plate servait de table. Sur cette pierre était posé un petit paquet de toile. Celui sans doute que j'avais vu par le télescope, juché sur l'épaule du jeune garçon. Il contenait une miche de pain, une boîte de langue fumée et deux boîtes de pêche au sirop. Au moment où je le reposais, après avoir examiné le contenu, mon cœur tressauta dans ma poitrine. Je n'avais pas vu un morceau de papier disposé au-dessous. Elle portait quelque chose d'écrit. Je me levai, et à la lumière, je lus, griffonné au crayon. « Le docteur Watson est allé à Combe Tracey. » Pendant une minute, je demeurai là avec le papier à la main, cherchant à deviner le sens de ce bref message. C'était donc moi. Et non sœur Henri qui était pisté par cet inconnu. Il ne m'avait pas suivi lui-même, mais il m'avait fait suivre par l'un de ses acolytes dont j'avais le rapport sous les yeux. Peut-être n'avais-je pas fait un seul pas sur la lande qui n'eût été observé et rapporté. Je me trouvais toujours en face de cette force mystérieuse, de ce réseau tendu autour de nous avec autant d'habileté que d'efficacité et qui nous retenait si délicatement que l'on s'en rendait à peine compte qu'on était dessous. S'il y avait un rapport, d'autres avaient sûrement précédé celui-là. Je fis le tour de la cabane pour en retrouver la trace, mais en vain. J'échouai également à découvrir quelque chose qui pût me préciser les desseins ou l'origine de l'habitant de cet endroit singulier. Il devait avoir des goûts de spartiate et se soucier bien peu des agréments de l'existence. Dehors, le soleil s'inclinait vers l'horizon. L'ouest s'embrasait de pourpre et d'or qui se réfléchissait dans les mares du grand bourbier de Grimpen. Je voyais les deux tours de Baskerville Hall et le lointain brouillard de fumée qui m'indiquait l'emplacement du village de Grimpen. Entre les deux, derrière la colline, vivait Stapleton. Tout respirait la douceur et la tranquillité. Cependant, j'étais loin de partager la paix de la nature. Je frémissais en pensant au genre d'entretien que j'allais avoir. Chaque minute en rapprochait l'échéance. Terriblement énervé, mais décidé à tenir jusqu'au bout, je m'assis dans le coin le plus sombre de la cabane et j'attendis avec une patience morose l'arrivée de son locataire. Je l'entendis enfin. Au loin retentit le bruit sec d'une chaussure heurtant une pierre. Puis une autre pierre crissa, et encore une autre. Le pas se rapprochait. Je me recroquevillai dans mon angle, j'armai mon revolver, et je résolus de ne pas me découvrir avant d'avoir vu l'inconnu. Je n'entendis plus rien. Il s'était arrêté. Puis les pas résonnèrent à nouveau, devinrent de plus en plus nets. Une ombre tomba en travers de l'ouverture de la cabane.
Ah, c'est une magnifique soirée, mon cher Watson, dit une voix familière. Je crois vraiment que vous serez plus à l'aise dehors que dedans.
Pendant quelques secondes, je demeurai sans voix, privé de souffle, incapable d'en croire mes oreilles. Puis je récupérai mes sens et la parole, tandis qu'un énorme poids de responsabilité se déchargeait de mon âme. Cette voix froide, incisive, ironique, ne pouvait appartenir qu'à un seul homme au monde.
« Holmes ! » m'écriai-je. « Holmes ! » !»«
Sortez donc !» me dit-il. « Et s'il vous plaît, faites attention à votre revolver !» Je me faufilai sous le linteau vétuste. Il était assis dehors sur une pierre et ses yeux gris dansaient de plaisir, amusés devant mon ahurissement. Il avait maigri. Il était là. Cependant, il avait gardé l'œil clair et le geste alerte. Son visage aigu était bronzé par le soleil. Sa peau avait souffert du vent. Avec son costume de tweed et sa casquette de drap, il ressemblait à un touriste. Et il s'était débrouillé en vertu de cette propreté féline qui était l'une de ses caractéristiques pour avoir le menton aussi bien rasé et du linge aussi net que s'il se trouvait à Baker Street.
Jamais une rencontre ne m'a rendu plus heureux, balbutiai-je en lui serrant la main.
Ni plus surpris, eh ?
Oh, je l'avoue.
Oh, la surprise n'est pas que de votre côté, je vous assure. Je ne me doutais nullement que vous aviez découvert mon refuge d'occasion, encore moins que vous vous trouviez à l'intérieur avant d'être arrivé ici à 20 pas.
L'empreinte de mes souliers, j'imagine ?
Non, Watson. Figurez-vous que je ne me crois capable de reconnaître vos empreintes entre toutes les empreintes au monde. Mais... si vous désirez vraiment me faire illusion, changez alors de marque de cigarette. Car quand je vois un mégot avec l'inscription Bradley, Oxford Street, je sais que mon ami Watson est dans les environs. Vous pouvez examiner votre mégot, vous l'avez jeté à côté du sentier. Vous vous en êtes débarrassé sans doute au moment suprême de vous lancer à l'assaut contre la cabane vide.
Exactement.
Ben, c'est ce que je me suis dit. Et connaissant votre admirable ténacité, j'ai deviné que vous étiez assis en embuscade, une arme dans chaque main, attendant le retour du locataire.
Vous me preniez donc pour un criminel ?
Je ne savais pas qui vous étiez, mais j'étais résolu à vous identifier coûte que coûte.
Bravo, Watson !
Et comment m'avez-vous localisé ? Peut-être m'avez-vous aperçu le soir de la chasse aux convicts, quand j'ai été assez imprudent pour permettre à la lune de se lever derrière moi.
Oui, je vous ai aperçu.
Et vous avez depuis fouillé toutes les cabanes avant de parvenir à celle-ci.
Non.
Votre jeune garçon a été repéré. C'est ce qui m'a permis de déterminer votre secteur.
Ah, le vieux gentleman au télescope, je parie.
Je n'y comprenais rien quand j'ai vu la première fois la lumière se réfléchir sur les verres.
Il se leva et alla scruter l'intérieur de la cabane.
« Ah, je vois que Cartwright m'a apporté quelques provisions. »
« Que me dit-il ? Tiens, vous êtes allé à Combe Tracy, n'est-ce pas ?
Oui.
Pour voir Madame Laura Lyons, exactement. »
« Très bien. » Nos recherches ont évidemment suivi des directions parallèles. Quand nous aurons collationné nos résultats, nous aurons sûrement une vue claire de l'affaire.
She would never say where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Don't question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost at such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Catch your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
Retour au chien des Baskerville.
Lectures en liberté, Denis Flagel.
Mon cher ami, ajouta Holmes, vous avez été pour moi un auxiliaire inappréciable dans cette affaire, comme dans beaucoup d'autres, et je vous prie de me pardonner si j'ai paru vous jouer un tour. En vérité, c'était dans votre intérêt que j'ai agi ainsi, et c'était parce que je ne sous-estimais pas le danger que vous couriez que je suis venu me rendre compte personnellement. Si je vous avais rejoint, vous et Sir Henry, ma présence aurait averti nos très formidables adversaires de se tenir sur leur garde. J'ai donc pu me débrouiller comme je ne l'aurais sûrement pas fait si j'avais logé au manoir. Je reste dans l'affaire un facteur inconnu, prêt à intervenir de tout mon poids au moment opportun. Mais pourquoi ne m'avoir pas prévenu ?
Oh, si vous aviez été prévenu, cela n'aurait rien facilité et j'aurais pu être reconnu. Vous auriez voulu me dire quelque chose ou, par gentillesse, vous auriez désiré m'apporter un peu de confort supplémentaire et un risque inutile aurait été couru. J'ai emmené Courtois, dont vous vous souvenez. Le petit bonhomme de l'Express Office, il a pourvu à mes besoins les plus simples, une miche de pain et un col propre. Que peut souhaiter de plus un mortel ? Il m'a donné de surcroît une paire d'yeux supplémentaires sur une paire de jambes très agiles, ce qui m'a été incomparablement utile. Mes rapports ont donc été rédigés en pure perte. Ma voix trembla quand je me rappelais les peines et la fierté que j'avais prises pour les écrire.
Holmes tira de sa poche un rouleau de papier. « Les voici, mon cher, et très soigneusement épluchés, je vous assure. J'avais pris d'excellentes dispositions et ils n'ont été retardés que d'un jour. Je dois vous complimenter très sincèrement pour le zèle et l'intelligence dont vous avez témoigné à propos d'une affaire extraordinairement difficile. »
La chaleur des louanges de Holmes m'apaisa immédiatement. Je sentis qu'il avait eu raison d'agir comme il l'avait fait, et qu'il valait beaucoup mieux que sa présence fût restée ignorée sur la lande.
Ah, je préfère ceci, me dit-il en observant la détente de mes traits. Et maintenant, dites-moi les résultats de votre visite à Madame Laura Lyons. Il m'était facile de deviner que c'était en son honneur que vous étiez allé à Combe Tracy, car elle est la seule personne de l'endroit capable de vous dépanner dans l'affaire. En fait, si vous n'y étiez pas allé aujourd'hui, il est vraisemblable que j'y serais allé demain. Le soleil s'était couché et le crépuscule descendait sur la lande. L'air s'était rafraîchi. Aussi, nous nous retirâmes dans la cabane pour avoir chaud. Là, dans la pénombre, je racontais à Holmes mon entretien avec Madame Lyons. « Voilà qui est de la plus haute importance, » fit-il quand j'eus achevé. « Voilà qui comble une lacune. Vous savez peut-être qu'une grande intimité existe entre cette dame et Stapleton. » « Non. » « Aucun doute là-dessus. Ils se rencontrent, s'écrivent. Bref, ils s'entendent à merveille. Ce qui nous met entre les mains une arme puissante. Si seulement je pouvais détacher sa femme. » « Sa femme. Je vous fournis à présent quelques renseignements en retour de ceux que vous m'avez communiqués. La femme qui passe ici pour Mademoiselle Stapleton est en réalité Madame Stapleton, son épouse. » « Grand Dieu, Holmes, êtes-vous sûr de ce que vous dites? Comment aurait-il pu permettre à Sir Henry de lui faire la cour ?»« La cour de Sir Henry ne pouvait nuire à personne sauf à Sir Henry. » Stapleton a veillé tout particulièrement à ce que Sir Henry ne fasse pas sa cour à cette dame et à ce qu'ils ne tombent point amoureux l'un de l'autre, comme vous l'avez vous-même observé. Je vous répète que cette dame est sa femme et non sa sœur. Mais pourquoi cette tromperie calculée? Parce qu'il prévoyait qu'elle pourrait lui être beaucoup plus utile sous les apparences d'une femme libre. Tous mes instincts réfrénés, mes soupçons vagues, se précisèrent soudain pour se centrer sur le naturaliste. En cet homme impassible, terne, coiffé de son chapeau de paille et maniant son filet à papillons, je commençais à voir quelqu'un de terrible, une créature douée d'une ruse et d'une patience infinie, le sourire aux lèvres et le meurtre dans le cœur. C'est donc lui qui est notre ennemi. Lui qui nous a filés dans Londres. Voilà comment je lis la devinette. Et l'avertissement, il aurait émané d'elle, exactement. Une scélératesse monstrueuse, mi-visible, mi-indistincte, se profila dans la nuit qui m'avait si longtemps inquiété. Mais vous êtes sûr de cela, Holmes? Comment savez-vous que sa sœur... et sa femme? Et parce qu'il s'est oublié jusqu'à vous conter un passage de son autobiographie, la première fois qu'il vous a rencontré. Oh, je dois dire qu'il l'a amèrement regretté depuis. Il fut autrefois professeur dans un collège du nord de l'Angleterre. Or, rien n'est plus facile que de retrouver la trace d'un professeur. Il y a des agences spécialisées dans la pédagogie grâce auxquelles on peut retrouver tout homme qui a été professeur. Une courte enquête m'a révélé qu'un collège du Nord avait été mené à la ruine dans des conditions atroces et que son directeur, dont le nom n'était pas Stapleton, avait disparu en compagnie de sa femme. Les signalements concordaient. Quand j'ai appris que le directeur en question était un entomologiste fervent, je n'ai plus eu aucun doute. Ma nuit commençait à s'éclaircir. Des ombres subsistaient. Cependant, et si cette femme est réellement son épouse, mais que vient faire Madame Laura Lyons? Oh, c'est l'un des points sur lequel votre enquête a projeté un peu de lumière. Votre entretien avec la dame résout pour moi quantité de problèmes. Je ne savais rien d'un divorce projeté entre elle et son mari. Dans ce cas, elle a cru que Stapleton était célibataire et elle comptait devenir sa femme. Et quand elle sera détrompée, alors, Watson, nous trouverons peut-être la dame disposée à nous servir. Notre première tâche est de la voir demain tous les deux. Ne pensez-vous pas, Watson, que vous négligez quelque peu vos devoirs? Vous devriez être à Baskerville Hall.
Les derniers rayons rouges s'étaient affadis à l'ouest et la nuit s'installait sur la lande. Des étoiles pâles luisaient dans le ciel violet. Une dernière question, Holmes, dis-je en me levant. Point n'est besoin de secret entre nous. Que signifie toute l'affaire? Qui poursuit-il?
Holmes baissa la voix pour répondre. Oh, c'est une affaire de meurtre, Watson. De meurtre raffiné, exécuté de sang-froid, délibéré. Ne me demandez pas de détails. Mes filets sont prêts de se refermer sur lui, comme les siens menacent de près Sir Henry. Grâce à vous, il est déjà presque à ma merci. Un seul danger peut encore nous menacer. Qu'il frappe avant que nous soyons prêts, nous, à frapper. Dans 24 heures, 2 jours peut-être, j'aurai mon dossier complet. Mais jusque-là, remplissez votre office avec autant de vigilance qu'une mère en mettrait pour garder son petit enfant. Votre mission d'aujourd'hui se trouve justifiée. Cependant, j'aurais presque préféré que vous ne l'eussiez pas quitté d'une semelle. Attention ! Un hurlement terrible, un cri prolongé d'horreur et d'angoisse déchira le silence de la lande, glaça mon cœur.
Oh mon Dieu ! Balbutiai-je, mais qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ?
Holmes avait bondi. Je vis sa silhouette sombre et athlétique devant la porte de la cabane, épaules basses, tête projetée en avant pour fouiller l'obscurité.
« Silence !»
chuchota-t-il. Le cri, étant donné sa violence, avait puissamment retenti. Mais il était parti de loin sur la plaine ombreuse.
Soudain, il éclata dans nos oreilles, plus proche, plus pressant. « Où est-ce ? » chuchota Holmes.
Le frémissement de sa voix me révéla que lui, l'homme de fer, était bouleversé jusqu'au tréfonds de l'âme.
« Où est-ce, Watson ?
Par là, je pense. » Dans le noir, j'indiquai une direction.
« Non, non, c'est par ici !»
De nouveau, le cri d'agonie transperça le calme de la nuit, plus fort encore, et tout près. Mais un autre bruit se mêla à celui-là, un grondement murmuré, musical, et pourtant menaçant, dont la note montait et retombait comme le sourd murmure perpétuel de la mer.
« Le chien !» s'écria Holmes. « Venez, Watson, courons, pourvu qu'il ne soit pas trop tard !»
Il s'était élancé sur la lande de toute la vitesse de ses jambes. Je le suivis sur ses talons. Mais, de quelque part sur le terrain raviné, juste en face de nous, jaillit un dernier hurlement de terreur, suivi d'un lourd bruit mat. Nous nous arrêtâmes pour écouter. Plus aucun bruit ne troublait le silence de la nuit sans vent. Je vis Holmes porter la main à son front comme un homme ivre. Il tapa du pied.
« Nous sommes battus, Watson. Il est trop tard. »
« Non, sûrement pas. Fou que j'étais de retenir ma main. Et vous, Watson, voyez la conséquence de votre abandon de poste. Mais par le ciel, si le pire est arrivé, nous le vengerons. » Nous courûmes dans la nuit sans rien voir, butant contre des pierres, traversant des buissons d'ajoncs, soufflant en escaladant des côtes, fonçant dans la direction d'où avaient retenti les cris de terreur. Sur chaque évélation de terrain, Holmes regardait autour de lui, mais l'ombre sur la lande était épaisse. Rien ne bougeait sur la surface hostile.
« Voyez-vous quelque chose ? Rien. Chut, écoutez !»
Un gémissement plaintif s'éleva sur notre gauche. De ce côté, une crête de rocher se terminait par un escarpement abrupt qui surplombait une pente jalonnée de pierres. Sur cette pente était étalé un objet noir, imprécis. Nous nous en approchâmes et le contour vague se précisa. Un homme était étendu face contre terre. Le visage rabattu formait un angle atroce, les épaules étaient arrondies et le corps tassé sur lui-même comme pour un saut périlleux. Cette attitude était si grotesque que j'eus du mal à comprendre que le gémissement avait été l'envol d'une âme. Quand nous nous penchâmes sur le corps, il n'exhala pas une plainte, il ne bougea pas. Holmes posa une main sur lui et la retira en poussant une exclamation d'horreur. Il frotta une allumette et à sa lueur nous vîmes que ses doigts étaient poissés de sang et qu'une mare sinistre s'élargissait à partir du crâne écrasé. Mais elle nous révéla quelque chose de plus. Le cadavre était celui de Sir Henry Baskerville. Nous avons donc terminé pour ce soir cette aventure de Sherlock Holmes, le chien des Baskerville, que nous retrouverons demain. Cette émission a été réalisée par Frédéric Guyon et vous pouvez la retrouver en podcast sur le site de Bretagne 5, bretagne5.fr. Bonsoir.
Pour écouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur notre site internet bretagne5.fr.